VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 19h à Cibitoke au Burundi. Bonsoir, bienvenue au Burundi. Alors que les résultats des législatives viennent d'être annoncés, on attend toujours de connaître la réponse du gouvernement burundais concernant un report de la présidentielle du 15 au 30 juillet. C'est l'une des recommandations du dernier sommet de Dar es Salaam. Nicolas Pinault a joint à cet effet le ministre burundais des Affaires étrangères Alain Niamitoué qui rentre tout juste à Bujumbura.
Nous recevons ces recommandations positivement. En général, il peut y avoir l'un ou l'autre détail qui est réglé, mais en général, on les reçoit positivement parce que nous considérons que la région s'est réunie pour aider le Burundi, pas pour couler le Burundi.
Donc un nouveau report de la présidentielle serait envisageable ?
Absolument, absolument. Moi, je pense que c'est une question qui doit être traitée avec la plus grande attention. Sans donner de détails ni de précisions, n'est-ce pas, par rapport à une décision qui doit être prise dans les jours et heures qui viennent. On va devoir soumettre la question précise du report des élections à la commission électorale qui doit revenir vers nous avec une proposition concrète pour un appel, cette fois-ci, des électeurs à une date qui aura été convenue. En tout cas, si c'est le 30 juillet que la commission électorale va confirmer, on va y aller. Si c'est le 15 juillet, on va aussi y aller. Mais je considère d'emblée que globalement, en tout cas, le package de l'Islam est un bon package pour mon pays.
Alain Niamitoué, le ministre burundais des Affaires étrangères, dont vous pourrez suivre l'interview intégrale dans environ 30 minutes dans le magazine Le Monde Aujourd'hui. Le président congolais Denis Sassou Nguesso rencontrait son homologue français aujourd'hui à Paris. François Hollande lui a rappelé l'importance de préserver les institutions. Michel Joseph.
S'agissant des enjeux d'approfondissement de la démocratie en Afrique, le président français a indiqué son attachement à la préservation et à la consolidation des institutions, insiste le communiqué de l'Élysée. Le président français a également rappelé son attachement au principe de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine qui suppose que les réformes constitutionnelles soient fondées sur un consensus. Un message qui fait écho à la situation politique en République du Congo. Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, a dirigé le pays pendant 30 ans. À l'approche des élections, le chef de l'État congolais a convoqué un dialogue national du 11 au 15 juillet pour discuter de l'organisation des futurs scrutins et de l'avenir des institutions. Mais l'opposition redoute qu'il ne s'agisse en réalité d'un stratagème pour modifier la constitution afin de lui permettre de briguer un nouveau mandat l'an prochain. La constitution congolaise, adoptée en 2002, le lui interdit à double titre. Elle limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et limite à 70 ans l'âge des candidats à la fonction suprême.
En Centrafrique, des hommes armés non identifiés ont fait irruption la nuit dernière dans les locaux de la radio nationale, blessant l'un des 3 gendarmes de faction. Une enquête est ouverte pour déterminer s'il s'agit d'une tentative de coup d'État ou d'un braquage. Des précisions avec le directeur général de Radio Centrafrique, Eloi Belango, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Il était environ entre 2h du matin et 3h du matin lorsque un groupe d'assaillants habillés de tenues militaires couleur désert ont fait irruption au niveau de la radio. Ils ont neutralisé tout d'abord les 2 gardes qui étaient là, c'était des gendarmes. Ils ont donc forcé l'entrée principale de la radio. Ils ont tenté en vain de pouvoir pénétrer dans le studio.
Ils étaient au nombre de combien ces assaillants ?
On parlait au moins d'une dizaine de personnes, puisque 2 sont rentrés pour les opérations. Mais sur la voie qui mène à la radio et tout autour, il y avait la présence de personnes habillées, tout en armes également, et d'autres qui tentaient d'escalader du côté ouest de la radio.
Selon vous, monsieur le directeur général, s'agit-il d'une tentative de coup d'État ou alors d'un simple acte de braquage ?
Braquage, je ne crois pas du tout. Si hypothèse il y a, je pourrais simplement dire que ça pouvait être certainement un coup d'État, dans la mesure où ils sont venus. Et c'est pour passer le message, puisque c'est surtout les studios qui les intéressent. Et aucun bureau n'a été donc cassé, donc il n'y a pas eu cas de vandalisme.
Eloi Belango, directeur général de Radio Centrafrique, 18h04 à Bangui.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Kenya, 14 personnes ont été tuées dans un village du nord-est du pays dans une attaque attribuée aux islamistes somaliens de Shabab, les responsables d'une série de raids meurtriers dans la région ces derniers mois. Claire Morin-Gibou.
À 2 semaines d'une visite à Nairobi du président américain Barack Obama, l'insécurité persiste dans cette région excentrée et pauvre du Kenya qui partage une frontière de 700 km avec la Somalie. Une nouvelle attaque a eu lieu tôt ce matin dans le village de Sokobuzi, à proximité de Mandera. Aucune revendication n'a encore été faite, mais les autorités ont immédiatement pointé du doigt les militants islamistes d'Al-Shabaab. Ralliés à Al-Qaïda, ils mènent depuis 2007 une insurrection armée en Somalie et ont, à plusieurs reprises, mené des incursions sanglantes au Kenya, dont la terrible attaque contre l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts en avril dernier. Les Shabab ont multiplié les attaques meurtrières au Kenya depuis que l'armée kenyane est entrée en Somalie en octobre 2011 pour les combattre. Quelques 3500 Kenyans servent toujours en Somalie au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, qui compte 22 000 soldats, burundais et ougandais notamment.
Et dans le nord du Nigeria, au moins 25 personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées et 32 blessées aujourd'hui par l'explosion d'une bombe attribuée aux islamistes Boko Haram dans des bureaux de l'administration locale à Zaria. L'information a été confirmée sur Facebook par le gouverneur de l'État de Kaduna, Nasi Ahmad El-Rufai. Le point avec vous, Jacques Aristide.
La bombe a explosé le matin au moment où des instituteurs et d'autres fonctionnaires faisaient la queue pour subir des contrôles d'identité d'après l'AFP. En l'absence de revendications, les soupçons se portent sur Boko Haram, très actif dans la région. Zaria, une ville à majorité musulmane, a déjà été la cible d'attaques des islamistes. Depuis l'entrée en fonction du nouveau président Muhammadu Buhari le 29 mai, ces derniers ont multiplié leurs opérations. Lundi soir, une jeune kamikaze de 13 ans avait péri dans un attentat manqué près d'une grande mosquée de Kano, la plus importante ville du nord du Nigeria, après 2 attentats meurtriers dimanche à Jos et un autre dans une église de Potiskum. Le président Buhari a fait une priorité de la lutte contre les insurgés, mais n'a pas réussi pour l'instant à faire cesser le bain de sang.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Crise en Grèce, l'Eurogroupe dit attendre une nouvelle lettre du gouvernement grec présentant un ensemble de propositions claires et uniques. Le point, Camille Gros-Didier.
L'Eurogroupe tiendra mercredi une téléconférence lors de laquelle la question d'un recours par Athènes au mécanisme européen de stabilité sera évoquée. Sur 5 ans, la Grèce a accumulé 350 milliards de dollars de dettes. Le premier ministre grec Alexis Tsipras préconise d'en effacer 100 milliards, mais les créanciers d'Athènes font toujours la sourde oreille. Non, nous ne sommes pas disposés à alléger la dette de la Grèce, a dit le ministre finlandais des Finances, Alexander Stubb. On l'a déjà fait en 2011, on l'a déjà fait en 2012, a-t-il fait valoir. Si certains dirigeants européens sont toujours bien disposés vis-à-vis d'Athènes, d'autres restent sceptiques. Une chose est certaine, M. Tsipras s'est fait dire sans embâge qu'il doit soumettre un programme crédible s'il espère une aide accrue. La balle est dans son camp, à lui de la saisir. Si le gouvernement grec s'exécute, l'Europe tentera pour sa part de parvenir à un accord le plus vite possible. Il s'agira d'évaluer la situation financière et les besoins de la Grèce. Une fois le point fait, l'Eurogroupe décidera formellement d'entamer ou non de nouvelles discussions.
Et les négociations nucléaires entre les pays du groupe 5+1 et l'Iran vont continuer dans les prochains jours, a déclaré aujourd'hui la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, alors qu'un officiel iranien a aussi réagi en affirmant que son pays n'avait pas de date butoir. Les États-Unis se disent également prêts à continuer les négociations au-delà de la date limite de ce mardi qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés si une percée semble possible. Après 11 jours de négociations acharnées dans la capitale autrichienne, les tractations entre l'Iran et les grandes puissances butent toujours sur des questions décisives. Et puis l'ONU a déploré aujourd'hui n'avoir reçu que 13% des 1,6 milliard de dollars demandés pour le Yémen, où les violences ont déplacé plus d'un million de personnes et provoqué une crise humanitaire massive. L'ONU avait décrété mercredi son niveau d'urgence humanitaire le plus élevé pour le Yémen, où les combats ont fait plus de 3000 morts. Le monde aujourd'hui, c'est tout à l'heure dans 20 minutes. Ce sera avec Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec pour de nouvelles actualités sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.